Donc, où est-ce qu'on est ? J'aimais bien cette pratique, en fait, depuis 2 heures, à me demander où est-ce qu'on est. Et c'était presque comme un jeu d'enfant à trouver. On est à Montreuil, on est en France, on est dans un jardin, on est dans une maison, on est à côté d'eux, on est loin d'eux, on est ensemble, on est toute seule sur le coussin, on est sur un coussin, on est sur un tapis, on est sous le plafond, on est sur le béton, on est devant un mur, on est devant une fenêtre, on est à côté de quelqu'un, on est devant un autre. Toutes sortes de placements qui sont liés au point de référence. Et depuis hier soir, cette question est avec moi. Et ce matin, je demande à Jean-Luc, et je sais qu'il habite Montreuil, je dis où à Montreuil. Il avait un peu de mal un instant à chercher, à trouver, bien que c'est là où il habite. Et puis, finalement, il dit, ah oui, entre telle station et telle station, et puis la rue. Et donc moi, tout de suite, ah oui, je connais cette rue, c'est là où se trouve telle ou telle chose. Tout de suite, moi, j'ai mes points de référence vis-à-vis de cette rue. Quelqu'un d'autre lit ce téléphone, disons, je vais être un peu en retard, je ne sais pas où je suis. Je suis à Montreuil, mais je ne sais pas où, je crois que je suis près de la mairie. Encore des références, des points de référence. Et hier soir, j'étais à table avec, je crois qu'il y avait 8 personnes, tous les Français. Et la question est venue, et ça se trouve qu'aujourd'hui il y a une Écossaise, donc elle pouvait nous répondre. La question était, où est-ce que ça se trouve Édimbourg ? Pour des raisons que je ne vais pas expliquer, mais où est-ce que ça se trouve ? Et tout le monde avait leur idée. Ah, c'est au niveau de la Norvège. Ah, c'est sur le Manche. Ah, c'est au nord de l'Écosse. Ah non, c'est sur le sud de l'Écosse. C'est au niveau du Danemark. Encore une fois, les références, les points de référence. Et c'était même en français, comment ça s'écrit, en anglais, comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Et ça se trouve qu'il y avait une personne qui, quand il était jeune, quand il avait 15 ans, avait fait un séjour linguistique à Édimbourg et a été totalement emballé par cette ville. Et au point où il est retourné plusieurs fois après et il a songé s'y installer. C'est un Français. Et donc, la question était, pourquoi ? Qu'est-ce qui était si prenant à Édimbourg ? Et personne d'autre à table a été à Édimbourg. Personne d'autre connaissait par expérience concrète. Et il a dit des choses, mais pour nous autres, ça ne nous incitait pas d'aller s'installer à Édimbourg. Ça avait l'air, oui, il y avait une vieille ville, il y a une histoire, sanglant, il y a un port qui... qu'est-ce qu'il avait dit un port qui, pour lui, évoquait Tintin, je ne sais pas pourquoi. bon, il y avait plein de choses. Mais c'était son expérience à lui et nos références. Et il essayait de partager son expérience avec des références. Tintin, vieille ville, rue pavée, histoire sanglante, je ne sais pas, différentes choses. Alors, et la question ce matin, c'est, on est où là ? C'est ce que j'ai dit au début. Quand les premiers sont arrivés, c'était mon salon. Et même ma cuisine, ma salle à manger. Mais c'est où le frontière entre la cuisine et le salon, et la salle à manger et le salon et, parfois, ça m'a toujours intriguée, on dit les cuisines américaines. Et je ne sais pas du tout pourquoi ça s'appelle cuisine américaine. Et parfois, je me demandais, est-ce que c'est parce que les Américains ne respectent pas les frontières? Ou est-ce parce que les Américains n'ont pas de discipline, c'est tout et n'importe comment. La cuisine, c'est le salon, ils ne font pas les séparations, les différences, etc. Je ne sais pas. Mais bon. Où sont les frontières, en tout cas? Et donc, on a déplacé les choses, on a amené d'autres, et c'est ce qu'en certains contextes, on appelle un zendo, ou une salle de méditation. En tout cas, c'est un lieu de pratique. Mais la pratique, c'est quoi? C'est où la frontière? Avant d'arriver, vous ne pratiquez pas? Quand on a pris la pause café-thé, on ne pratiquait pas? Grâce aux astuces d'une architecte perspicace, pratiquement personne sait qu'à côté de ce mur, il y a un énorme mur, une falaise imposante. Qui est le mur de l'immeuble d'à côté. Et elle a réussi à totalement faire, entre guillemets, disparaître ce mur, cette énorme falaise à côté. On peut dire que c'est une forme de déni. On est dans le déni qu'il y a cet immeuble à côté. Mais non. C'est simplement qu'elle a réussi à faire en sorte qu'on n'est pas fixé sur ce mur et que notre vie ne se déroule pas constamment avec ce mur comme point de référence. Énorme falaise. Tout à l'heure, vous allez regarder tous probablement pour voir l'énorme falaise. Elle a totalement pris en compte ce mur. Elle a absolument pris en compte le mur d'à côté aussi. Et d'ailleurs, la contrainte était extrême des deux côtés. L'autre, on n'avait pas le droit d'y toucher. C'est un monument historique protégé. C'est ce qu'on appelle un mur à pêche qui date de Louis XIV et on ne peut pas les toucher, ces murs à pêche. On peut même, donc la maison est construite à quelques millimètres ou deux à côté. Et les architectes des bâtiments de France sont venus pour vérifier que c'était ainsi. Donc, elle a totalement pris en compte ce mur. Elle était obligée. Elle a totalement pris en compte ce mur aussi parce que on ne pouvait pas l'enlever. C'était forcément, ça allait être plus grande que notre maison. Et donc, elle a trouvé une autre astuce pour le faire. Elle a pris en compte l'ancienne structure, elle a pris en compte le jardin, tout. Pas pour nier les choses, mais pour absolument intégrer tout dans cet espace de vie. Quand on est arrivé, là, ce matin, on a changé le placement des meubles, on a enlevé des choses, on a amené d'autres, comme j'ai dit. Pas pour nier le fait que c'est un salon, que c'est une maison, simplement pour le rendre convenable pour cette pratique. Moi, j'avais calculé qu'on pouvait être 15 personnes ici, c'est un peu juste, mais bon, ça, on arrive. Et donc, on a fait en sorte. Ça se trouve qu'on est 14. Et parce que certaines personnes sont annulées, j'ai pu dire oui à tout le monde. Parce que quelqu'un annulé, et donc quelqu'un d'autre téléphone, je dis oui. Si quelqu'un d'autre avait téléphoné avant que l'autre annulé, non, je ne pouvais pas. Donc j'avais cette contrainte et j'allais avec. Pas pour créer les frontières, pour diviser, pour enlever, pour séparer, etc., mais prendre en considération l'espace et faire avec. Pareil pour l'emploi du temps, disons. C'est intéressant comme terme. Un emploi du temps, comment on va se servir du temps, comment ça se... le mode d'emploi du temps. Car la vie se déroule toujours dans le temps et dans l'espace. La vie est toujours particulière et dans le temps. Bien que ce temps est infini et que cet espace est sans limite. Donc, le fait que l'architecte a dissimulé ce mur, c'est reconnaître l'espace, absolument, mais reconnaître que c'est sans limite, que on n'est pas obligé d'être limité par ce mur qui est énorme. Notre vie peut se dérouler tout en reconnaissant. Si on ne reconnaît pas le temps ou l'espace, ben on va être emmerdé. Si on ne reconnaissait pas qu'aujourd'hui on a une certaine limite de temps, il y aura des problèmes pour ma famille, parce qu'on est là. Pour vous, dans chacun de vos vies, chacune de vos vies, vous avez des choses à faire, des obligations, des situations qui veut dire que vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment. On aimerait parfois, on aimerait rester constamment ou indéfiniment dans tel ou tel espace. Et ça nous amène quoi ? La souffrance. On aimerait rester indéfiniment dans tel ou tel endroit. Et ça nous pose des problèmes. Ça amène des souffrances. De même, si on a cette idée qu'on voudrait être toujours ici, si je veux rester toujours dans cette place précise, je ne reconnais pas vraiment cette place. Je ne reconnais pas les autres places. Je suis fixée sur cette place ici et je ne vois pas les autres places. Si je veux rester, si je ne veux pas me réveiller le matin, ça on peut tous reconnaître, ça va être problématique pour le reste de la journée. Si je ne veux pas me coucher le soir, ce que certaines peuvent reconnaître aussi, mon fils qui a 15 ans et est très dans le « je ne veux pas me coucher le soir », ça pose des problèmes ensuite. Et si on veut toujours, on a cette idée que c'est beaucoup mieux de pratiquer, entre guillemets, que je me sens mieux quand je m'assois, quand je suis avec d'autres gens qui font ça, ou que je suis toute seule dans ma pièce à moi à faire ça sans les autres, ou pendant une retraite, même si c'est juste une journée comme ça. ah, c'est beaucoup mieux, je me sens mieux, etc. On a des problèmes quand on rentre chez nous, après, parce que on n'est pas là où on est, on ne prend pas en compte. C'est comme si on ne prenait pas en considération le mur à côté. C'est une forme de violence qu'on se fait à l'instant qui se présente et de, à tout ce qui se présente dans cet instant. Un parcours de non-violence du genre Gandhi ou Martin Luther King ou le Christ ou je sais pas, on peut se faire à l'infini, les Dalai Lama. Et je prends uniquement les grands noms que tout le monde peut reconnaître. Cette attitude de non-violence, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas notre concept de ça. C'est comme Édimbourg n'est pas mon concept de ce que c'est Édimbourg. Ce n'est pas... Bon, je le prononce à la française. Mais Kathleen pouvait nous prononcer ça à l'écossaise. Comment on dit
Edinburgh.
Edinburgh. Moi, je, avec mon accent américain, je dis Edinburgh. Je ne sais pas même. Une attitude de non-violence, c'est de ne écarter rien de tout ça. C'est d'inclure tout ça. D'inclure, même d'inclure la violence. Parce que si on n'inclut pas, on fait du violence à la violence. Le fait est, par contre, que par inclure tout ça, ça enlève sa... Comment dire? Ça enlève son... la charge, disons. J'ai entendu hier que en Tunisie, dans un manif, je crois que c'était vendredi, un policier est monté sur le toit de son véhicule devant la foule demander pardon. C'est extraordinaire quand même. Parce que les policiers étaient, c'était pas l'armée. L'armée était plutôt défendu le peuple dans cette révolution du jasmin, comme on dit. Et les policiers étaient fidèles entre guillemets à l'ancien régime. Ils étaient l'instrument de la régime. Et donc ils continuaient, c'est eux qui ont continué de frapper, de casser des manifs, etc. Et ce policier est monté sur le toit de son véhicule face à cette foule non violente. Parce que la foule ne cherchait pas la violence, il cherchait simplement à s'exprimer. Est monté sur le toit de son véhicule et a dit pardon. Je vais me joindre à vous. Et on s'est trompé. La force, les flics, nous, les flics, on s'est trompé. Et on va vous joindre. Et apparemment, la même chose s'est reproduite dans notre ville et dans d'autres endroits. Je n'ai pas eu la suite aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça aurait été autre chose si cette foule était violente, s'ils étaient armés, ils chargeaient, et ils poussaient au conflit, etc. Face à cette non-violence, cette personne qui jusque-là avait été chargée d'utiliser la violence, n'avait aucune raison de le faire. Il n'avait plus aucune raison de le faire. C'est une espèce de miracle qui se produit quand une personne se réveille et dit « Effectivement, je n'ai pas besoin d'utiliser la violence. Je n'ai pas besoin de détruire ce mur pour vivre convenablement ici. Ce n'est pas un mur, disons. On est ici à Édimbourg. C'est comme on est dans la cuisine. On est à Tunis. Là. Il y a cet autre truc extraordinaire que j'avais mis sur le blog, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, mais j'ai lu ça. Sidérant que des scientifiques constatent que l'univers agrandisse. Bon, c'est ça. Et que plutôt qu'ils avaient pensé que, selon les théories d'Einstein, etc., le fait que ça agrandisse allait amener les choses de nouveau, qu'il y aura une réaction, et tout allait se rapprocher de nouveau. En fait, non, ils ont changé l'idée et ça va s'éloigner encore plus. Donc, les étoiles qu'on voit maintenant, au fur et à mesure que l'univers s'agrandisse, il y aura plus de séparation et dans des milliards d'années, tout ça c'est spéculation, mais selon l'article c'est vrai, dans les milliards d'années, on ne va plus voir cette lumière des étoiles qu'on voit aujourd'hui, on ne va pas pouvoir les voir. Ce sera trop loin, même pour nos instruments les plus forts. Et comme on sait que ces lumières des étoiles qu'on voit sont pour la plupart, ils n'existent plus, c'est le passé, l'article constate qu'on ne verra plus le passé. Ce qui est extraordinaire, c'est que on ne voit jamais le passé, on voit uniquement ce qui est ici maintenant. La lumière qu'on voit, quand on voit dans le ciel, c'est maintenant. Nous, on a cette conception de passé, présent, futur, etc. Mais tout est là, maintenant. Donc, ce qui change, c'est toujours le présent. Peut-être un jour, oui, il n'y aura pas ces étoiles qu'on voit. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le passé, c'est parce que le présent est différent. On voit toujours ce qui est ici maintenant. C'est là où on est. On est à Édimbourg, là. Quand on dit on est où? Parce que je me disais, oui, il faudrait que tout le monde dise on est où? Vous êtes où? Tu es où? Tout le monde aura une réponse. C'est pour ça que je dis c'est un jeu d'enfant. Les enfants, ils adorent ce genre de truc. Chacun dit oui, je suis en France. Oui, je suis Montreuil, oui, je suis dans l'avenue Pasteur, oui, je suis au numéro 20, oui, je suis sur un coussin, etc., etc., comme j'ai cité avant. Mais vraiment, on est où? C'est où? C'est. Et là, ça nous amène à d'autres questions, mais pour l'instant, je garde cette question-là. On est où? Ce qui se passe, c'est que, comme avec des murs, par exemple, le pause café qu'on a pris. Si on se fixe, si on limite notre expérience de la journée à ce pause café, ça écarte tout le reste de ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, c'était une pause. Alors on peut dire, ah, c'est là où on a pris une pause, on s'est fixé, c'est quelque chose qui est séparé de le reste de la journée, c'est une pause café. C'est comme si on vivait notre vie tout autour de ce mur qui n'en finit pas à côté. Si on limitait notre expérience de notre vie à ce mur qui est à côté. Mais évidemment, on ne va pas faire ça. Personne, j'imagine, va réduire sa journée à la pause café qu'on a pris à 11h30. On a passé à autre chose. C'était éphémère, cette pause café. Mais tout est ainsi. C'est pas uniquement la pause café qui est éphémère. Tout est ainsi. Même les choses qu'on croit les plus dures, le mur qui n'en finit pas à côté, est éphémère. Le soleil qui arrive là comme ça, ça va bouger. Ça ne va pas rester là, indéfiniment. Mais à cet instant-là, c'est entièrement là, ce soleil. Mais si on... Donc, si Brigitte se réduit son expérience de cette journée à cet instant, quand elle avait le soleil plein la gueule, ça fait violence à tous les autres instants qu'il y avait. Et même si elle s'accroche à ça, et ce soir, elle a qu'une envie, c'est de retrouver cet instant où elle avait le soleil dans la figure, elle n'est pas du tout présente à son instant, là, quand elle est dans son lit, ou quand elle est en train de se laver les dents. Combien on vit dans la violence, en fait. On est très... Et violence, c'est peut-être un terme violent que j'emploie, mais c'est pour souligner. Souvent, j'emploie une autre terminologie qui est accueillir, ou je donne cette méditation de dire oui, donc de dire oui à tout. Oui au soleil, oui à l'ombre, oui au post-café, oui au j'ai mal au genou, oui à le mur, non, au mur, oui à l'autre mur, oui au jardin, oui le chat qui passe, oui. Oui à non même, parce que là, il y a non aussi là, il y a on a demandé silence, donc nos paroles. Ce qui est une façon de dire oui au silence. Ce qui est la même chose que de dire oui à nos paroles. Nos n'est pas forcément agressif ou violent. Ça dépend si on dit oui à ce nom ou non. Et en fait, plus on dit oui, plus ça monte comme un crescendo. C'est vraiment... C'est comme une crescendo ou comme une pente glissante. On n'a plus de pied là. Il n'y a plus rien sur lequel on peut s'accrocher. Ce qui fait peur. Et c'est pour ça qu'on hésite à dire oui. Parce que, waouh, si je dis oui, je vais glisser. Ah non, pas finir. Et je vais où alors? Je pense à cette notion de crescendo parce que, bon, certains vous connaissez, vous savez que je parle souvent du vice, mais le dernier mot de ces 900 pages de Joyce, ça termine avec cette merveilleuse affirmation de la vie. Oui. Le dernier mot du livre, c'est oui. Et il avait cherché, il avait voulu que ce soit un mot affirmatif. Il voulait que ce soit un mot féminin, parce que c'est le dernier mot, c'est Molly, qui est le personnage féminin du livre, et il voulait que ce soit un mot féminin et un mot affirmatif, une affirmation, pour vraiment mettre le point sur le fait que tout le livre, c'est une affirmation. C'est un, tout ce qu'il essaie de dire, c'est oui, c'est tout inclure. Il fait violence à rien dans ce livre. Il fait violence à aucun aspect de la vie. Comment ça se passe dans nos vies? Comment est-ce qu'on voit les endroits où on fait violence, où on, qu'on fait pas, ou quelles sont nos craintes, ou quelles sont nos joies dans les moments de joie? Est-ce que c'est parce que j'accueille plutôt que d'écraser? Est-ce que ça me fait plaisir d'écraser? Ou est-ce que je me sens comblée quand je supprime des aspects de moi ou des conduites, ou quand j'écarte les gens de ma vie? Est-ce que vous avez des choses, ça résonne, ça vous dit des choses, ça... Oui.
Je voulais que... cette interrogation sur oui, ce bon oui, et sur le prendre licence, ça résonne beaucoup pour moi, parce que la pratique en particulier m'a amené plusieurs fois toute cette année à des espèces de moments de soleil, rien de cosmologique ou de acid trip, hein, un sentiment de tout permis, quoi, de comme quoi j'avais pas besoin de résoudre ma vie et que je pouvais vivre cette vie, quoi. Mais ce qui m'est arrivé systématiquement, c'est que c'est ce sentiment de pente dont tu parles, où je perds pied, et même éventuellement la pratique, et non seulement perdant cette sensation de félicité, mais même certaines disciplines qui m'a abrité, qui m'a aidé en quelque sorte. Je me trouvais encore plus dans le noir, dans la confusion, dans la séparation, dans le non que jamais. Comme s'il y a, en laissant dilater sur oui, il y a les gros non qui montent, les gros spasmes. Est-ce que tu peux parler de ça, s'il te plaît?
Oui, et un mot très important que tu as employé, c'est discipline. C'est un des points, il y a ce qu'on appelle les paramitas, c'est les pratiques et des qualités du bodhisattva, de quelqu'un qui est sur ce chemin et qui a réalisé cette non-séparation, cet accueil dont je parle. Et c'est une des principales qualités qu'il a, et une des pratiques principales aussi, c'est les disciplines. Et les disciplines, ce n'est pas ce qu'on croit. Souvent, on imagine que c'est raide, que c'est ça limite, c'est chiant, il faut révolter, etc. C'est pas du tout ça. C'est... moi, personnellement, la discipline, je vois ça comme une simplification de ma vie. C'est simplifié. C'est-à-dire que, autrefois, dans les pays asiatiques, cette pratique, on trouvait la discipline à travers une pratique monastique et on allait vivre dans un monastère et les gens qui n'étaient pas, qui vivaient une vie laïque, ils venaient au monastère ou au lieu de pratique et ils participaient à cette discipline dans une autre façon, mais tout tournait autour de cette discipline monastique, en fait. En Occident, on n'a pas ça. Ce modèle, ça ne marchera plus. C'est fini. Il faut qu'on trouve d'autres choses. Ce qui reste, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Quel est le fil qui reste pareil ? Quel est le fil que nous, on suit, qui est la même chose qu'eux, ils suivaient autrefois, ou qu'ils suivent dans les pays asiatiques toujours ? Qu'est-ce qu'on veut ? De quoi il s'agit, notre vie ? Alors, les disciplines, ce qu'on peut appeler les formes des disciplines, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait ce soir, aujourd'hui, de telle et telle heure. Ça, c'est une discipline. C'est une structure qui vient de la discipline. On a décidé qu'on allait s'asseoir d'une certaine forme, que quelqu'un va regarder le temps pour nous. C'est une discipline, cette structure. Et qu'on ne va pas parler, etc. Ça nous aide, parce qu'on a cette, en anglais, longing, ce désir de quelque chose. Et toutes ces choses, toutes ces formes nous soutiennent dans sur ce parcours. Mais on s'en fiche de ces formes, en fait. On s'en fiche de cette discipline en soi. C'est-à-dire que on s'en fiche si c'est noir ou rouge, en fait. On s'en fiche si c'est un cercle ou c'est un carré. On s'en fiche si c'est 30 minutes ou 20 minutes. On s'en fiche si telle personne est assise ici ou telle personne est assise là. Ça n'a aucune importance en soi. Ça a une importance pour que ce que ça nous apporte, ça nous aide à clarifier et à simplifier notre vie. Et en structure, toi, tu vas tous les matins s'asseoir avec des gens. En soi, on s'en fiche, mais ça te donne un cadre. Ça donne ça maintient ce fil. Ça t'aide à maintenir ce fil. Et c'est là où c'est très important. On peut, par exemple, on dit, ok, il faut avoir, dans les contextes traditionnels, il faut avoir un autel. Avec un bouddha, des fleurs, de l'encens, bougies, etc. Ok, donc, on a bricolé. On a fait. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y aura dans un monastère japonais. Ça ne ressemble pas du tout à ce qui est à côté, dans le centre. Et de l'autre côté, ça ressemble exactement parce que c'est la même idée, la même nature, le même point. De quoi il s'agit ?
Tu m'as dit qu'un mot-clé dans ce que je dis, c'est discipline, un mot-clé que j'entends dans ce que tu dis là, c'est l'aspiration, le longing, l'aspiration, mm-hmm. le desire. Mm-hmm.
Et ça, c'est une autre des paramitas.
Et quand j'arrive à un vrai oui, c'est-à-dire que je me rends compte que l'aspiration, ce que je crois être l'aspiration, était vachement de real longing, desire, de l'évasion, d'ambition spirituelle, diverses choses dans le genre. De forme de séparation de ma propre vie à travers cette pratique de Zen et d'autres choses de mon passé avant Zen. Et quand j'arrive à un vrai espace de oui et de pente glissante, comme tu dis, il y a même this Zen, it's all bullshit, you know, let it all go, quoi. Est-ce que tu peux me parler de fonctionnement de cette aspiration? Comment le oui et l'aspiration fonctionnent ensemble? Est-ce que je suis précis?
Je ne sais pas exactement. Je vais essayer de... parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs choses, là. C'est quoi ton aspiration?
Freedom.
Donc, liberté. De quoi? Qu'est-ce qui... être libre de quoi?
Juste vivre ça.
Ok. Et donc, tu choisis ce... cette forme, enfin, ce contexte, pour chercher ça. Oui.
Dans un premier temps, ça m'est arrivé par exprès. Je suis tombé dans la pratique.
Peu importe.
Non, mais c'est important parce que j'ai découvert qu'il y avait un truc qui sentait comme une liberté que je n'avais pas connue avant.
Et moi, je peux dire ça aussi, que moi, j'ai tombé dedans aussi. Et c'est là où je dis que on s'en fiche zen. C'est vrai, d'une certaine façon. En même temps, comme j'ai dit, la vie est absolument particulière. C'est exactement là où tu es, où ça se passe. Et il faut prendre en compte exactement tout ce qui est autour. Et donc, si ça se trouve que tu es dans cette pratique zen, ou là, cette pratique zen, ce n'est pas bullshit. C'est absolument précieux, tout ça. Mais ce n'est pas limité à ça. C'est ça ce qui est important. Cette même aspiration, tu peux le cultiver, tu peux le respecter, tu peux le manifester à chaque instant, dans quoi que ce soit. Mais ça se trouve que tu as senti quelque chose dans cette pratique précisément qui te parlait, qui résonnait. Et dire que c'est bullshit après, c'est ne pas respecter ce que tu as ressenti. Peut-être à un autre moment, tu vas dire, oh oui, mais c'est bon, je me suis trompé. Mais comme dit Bernie Glassman, quelqu'un d'un autre lignage, j'étais là, j'ai entendu, quelqu'un lui a posé une question, comment je peux savoir si cette pratique c'est pour moi? Comment je peux être sûr que c'est vraiment ça ma pratique? Et que ce n'est pas juste du bullshit, disons. Et est-ce que tout le monde comprend le bullshit? Oui. Et il a dit, il y a deux possibilités, mais il y a une seule façon de savoir. Soit cette pratique, c'est vraiment pour toi, soit ce n'est pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de in-between, je dirais en anglais. Soit c'est pour toi, soit ce n'est pas. Quand on dit c'est pour moi, ça manifeste différemment pour chacun. C'est pour moi. Ma pratique ressemble à la pratique de personne d'autre. Mais on partage, c'est pour moi. Si ce n'est pas pour moi, c'est aussi divers et varié, et c'est selon la personne. Mais la seule façon de savoir si c'est pour moi ou si ce n'est pas pour moi, c'est de faire. C'est de vraiment le faire. Et pour vraiment le faire, il faut vraiment le faire. Si on ne le fait pas, on ne va pas savoir. Alors, les moments quand, souvent, c'est, parce que c'est vrai, qu'on a ces moments où on dit, ah oui, mais... ah oui, c'est super, je me sens très bien, etc. Mais bon, après tout, c'est le bullshit, tout ça. C'est, si tout est pratique, mais pourquoi je vais m'emmerder de me lever le matin et aller s'asseoir? Pourquoi je vais consacrer ma dimanche à ça si tout est pratique? Ça, c'est une fuite, souvent. C'est, je dis une fuite pour être gentil, parce que c'est une ignorance. On ne voit pas. On se limite notre expérience à rien n'est fixe, tout est bon.
C'est l'idée de liberté.
Oui. Et c'est là où on fait violence. C'est là où il y a des abus. C'est là où quelqu'un qui... ça se produit dans les traditions spirituelles. Je suis au-delà des règles humaines et donc je fais ce que je veux. Récemment, il y a une histoire terrible aux États-Unis d'un maître zen japonais qui, mais depuis des années et des années et des années, est dans une relation abusive avec des gens. Et quelqu'un qui pratique avec lui, un disciple, a dit, oui, mais il nous disait que il a une telle réalisation qu'il est au-delà. Il ne fonctionne pas selon les mêmes règles que nous. Voilà. C'est là qu'on t'entend dans ces bullshit. Parce que c'est ne pas prendre en compte le mur qui est là. C'est aussi aveugle de dire ça. Je suis au-delà, j'ai une telle réalisation que je ne vis pas selon les règles que tout le monde, que de dire que ce mur à côté n'existe pas. Alors, c'est aussi, c'est peut-être être humble et dire, oui, j'ai besoin de ces formes, j'ai besoin d'une structure. La structure n'est pas fixe, par contre. Là aussi, on se fait illusion si on croit que la structure est fixe. Mon expérience, encore, c'est que moi, j'étais entraînée dans une version zen qui était assez traditionnelle. Avec des robes, avec des chants, avec des hiérarchies. Certaines personnes étaient assises dans certains endroits, très, très convenables, disons. Qui était déjà moins convenable, moins strict que ce que mon maître avait eu. Donc au fur et à mesure, c'était plus souple. Quand moi j'ai commencé, il y a 10 ans, à enseigner moi-même, et créer mes propres activités, etc., c'était l'enfer, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, parce que j'étais entourée des gens qui n'avaient aucune expérience de ce que moi j'avais vécu. Je n'avais rien, je n'avais pas un seul coussin, je n'avais pas cloche, Bouddha, j'avais rien. Alors qu'est-ce que j'allais faire? J'allais vivre dans un enfer d'insuffisance, impossibilité, frustration, agression envers les gens qui ne connaissaient pas et les situations où il faudrait faire d'une certaine façon et pas un autre. Non. Heureusement qu'avec les traditions qu'elle m'a transmises, mon maître, elle m'a aussi transmis la créativité. Et elle m'a incité à vivre et faire là où on est, avec ce qu'il y a. Et donc, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. Il y a des Portugais ici, ils savent qu'au Portugal, c'est pas du tout pareil. Et c'est exactement pareil. Non? On ne pratique pas de la même façon, et on pratique exactement de la même façon. Quand on fait ces journées, on ne le fait pas toujours ici. On le fait dans différents endroits. On n'a pas un lieu fixe, disons. On n'a pas d'architecture, je dis tout souvent. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas enfermer. Bon, je ne voulais pas. Je n'avais pas de choix. Donc en fait, je voulais exactement ce que j'avais. Je n'avais pas de choix. Je n'avais pas d'endroit. Non seulement je n'avais pas de coussin, mais je n'avais pas d'endroit. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais dire, ok, je ne vais pas pratiquer. Je ne vais pas partager cette pratique avec des gens. Mais non. Une chose très importante que mon maître avait dit quand je commençais à enseigner, c'est, Amy, il faut aller là où les gens ils sont. Et pas, elle ne parlait pas physiquement. Elle parlait dans la relation avec l'autre. On ne peut pas être moi ici et toi là. Il faut aller là où on est, ensemble. Et ça se traduit aussi dans la forme. Ben, il faut aller là où on est. Il faut être là où on est. Donc, c'était un salon avant, mais on n'est pas limité à cette notion que c'est un salon. C'est un zendo, là. Il nous est arrivé parfois, le lieu où on pratique le lundi soir, par les malentendus, on ne pouvait pas y rentrer. Et donc, on est allé s'asseoir dans un parc à côté. Mmh. C'est le Zendo. C'est, mmh. Le Zendo, c'est pas... c'est où le Zendo, en fait? C'est là où on est, c'est là où on pratique. Même le nom, le terme Zendo, c'est de l'enfermer dans un certain cadre. Mais bon, ça, c'est important les formes aussi. Donc, pour pouvoir fonctionner ensemble, on va dire salle de méditation ou Zendo, pour que on reconnaisse que ce n'est pas du bullshit. C'est là où on pratique. Et c'est un espace sacré, d'une certaine façon. Tout est sacré. Mais, où rien n'est sacré. Mais pour voir que tout est sacré, d'abord il faut voir que rien n'est sacré. Et vice versa. Mais si on est fixé sur cette notion qui a cet énorme mur à côté qui nous écrase, on ne fait rien. On ne va pas construire une maison. C'est comme François d'Assise. C'est extraordinaire cette histoire. Il a cette... bon, lui, il interprète ça comme les paroles. Dieu lui parle en disant « Il faut rénover et réparer ma maison. » Ma maison est en ruine. Il faut le soigner. Il faut le reconstruire. Il faut le soigner. Alors, il interprète ça par, il va trouver une vieille église qui est en ruine, et il le retape, et il demande les donations, et les gens pour l'aider, etc., etc., et puis il se rend compte que non, c'est pas ça. Et donc, il va à Rome, et il va essayer de créer un nouvel ordre, etc., etc., et... essayer de révolutionner l'Église, toute hiérarchie, etc. Mais il se rend compte que c'est pas ça non plus. Que c'est ça, effectivement, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est incarner cette Église, entre guillemets. Mais dès qu'il y a des Églises, on a des problèmes parce que ce n'est plus incarné. Mais incarner ça. Et donc, votre pratique, ce ne se limite pas à tel ou tel Zendo, tel ou tel hôtel. Moi, j'ai pratiqué dans les rues avec Bernie Glassman dans le cours de l'école qui était inondé qui était couvert de mauvaises herbes, comment on appelle ça, seringues, parce que des junkies traînaient là, des canettes de bière, les pneus qui étaient jetés là, un vrai terrain vague. Et on a passé la matinée à nettoyer, etc. Et puis on a dit, ok, on va faire zazen, et donc on a fait zazen là. Et sur une pierre qui se trouvait là, quelqu'un a mis une canette de bière. C'était l'hôtel. C'était merveilleux. C'était, si je dis que c'était un des hôtels les plus beaux que je n'ai jamais vu, ça montre que je suis fixée sur cette notion de cet hôtel qui est juste ce qui est. Ça se trouve que c'était une manifestation de juste ce qui est qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup inspirée. Plus que ces trucs figés qu'on a, une superbe statue de Bouddha, magnifique, candle, bougie, magnifique bol d'encens dans lequel il y a des générations et des générations de cendres qui sont accumulées, il ne faut pas les jeter, il faut les transporter d'une certaine façon. Il y a certains bâtons d'encens qu'il faut placer d'une certaine façon avec ses doigts, comme ça. C'est vrai. C'est la manifestation de ce qui est. C'est vrai. Mais on a tendance de se projeté tellement de choses là-dedans qu'on ne voit plus ce qui est. Et cet hôtel dans le terrain vague avec les canettes de bière, on pouvait, tous nos concepts étaient bouleversés. On n'avait pas de cloche, on n'avait pas de coussin. Et on était là, on se posait là avec ce qui est. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question?
Beaucoup.
Ok. En fait, je préfère largement que c'est un dialogue, c'est plutôt qu'un discours. Donc, j'avais des choses à dire.
Bon, cette question, où suis-je, c'est peut-être pas une question que j'ai en ces termes, mais au niveau des points de repère, des comment j'existe par rapport aux points de repère que je mets, etc. C'est quelque chose avec lequel je suis. Et là, je me suis rendu compte, mais ça m'a... qui m'est monté, il y a la phrase « je suis là ». Et « je suis là, cela », c'est à la fois « je me trouve là, le lieu », et puis « je suis quoi ? Je suis là ». C'est... Donc pour moi, c'était vraiment très très lié à « qui suis-je ». Je le savais d'une certaine façon, mais pas de façon aussi brutale là, comme ça. C'est...
Oui, et même, c'est intéressant que la langue
permet ça.
Indique ça, en, je ne sais pas en portugais, mais en anglais, en français, ça. Je suis là, I am here. Ou en italien, est-ce que ça marche comme ça aussi ou...
Sans un oui.
Oui. Et portugais aussi Non.
Non, c'est différent.
C'est quoi que ça se traduisait comme. Ça se traduit comme ça comment?
Je suis ici, je suis ici, mais c'est, ça ne veut pas dire je suis d'être, mais d'être dans ce plat, dans cette place, mais pas être.
C'est pas le même verbe que être.
Non, on a deux.
You have the two verbs for the same.
En créole haïtien, si tu essayes de dire je suis là, ça ne marche pas, mais si tu dis here I am, ça marche, mais moins. Genre, here I am, ça marche comme ça.
C'est même plus direct, quoi. C'est... Oui, c'est intéressant, hein. Mais. Oui. Que ça amène forcément à. Mais qui est là? On est où et qui? Et quoi? C'est ça la pente glissante. Et puis, si on commence à s'interroger de ce que c'est je. Qui je, là aussi la pente, on glisse encore, ou le crescendo monte. C'est donc c'est à la fois ça élargit et ça les deux.
Je pensais d'ailleurs tu as dit le mot mais. Je suis là, pour moi, ça a un rapport avec l'incarnation. Voilà, mais du coup, c'est quoi l'incarnation? Parce qu'un verbe peut être, on dit par exemple un mot, c'est quelque chose qui s'incarne dans le verbe. Mais en même temps, un verbe peut être vide, même si on prononce. Parfois, ça n'a pas de sens. Et je me posais cette question, justement. De dire oui à l'incarnation, mais aussi à la désincarnation, parce que ce qui fait aussi parfois que les choses sont poétiques, c'est aussi lié au fait que le verbe est aussi désincarné, qu'il y avait aussi quelque chose de désincarné. Et donc, en méditant sur où sommes-nous, je pensais à ça, le fait d'être à la fois incarné, à la fois complètement désincarné, Et voilà, j'avais du mal à, parfois je faisais des espèces d'allers-retours un peu comme ça, jusqu'à un moment donné où peut-être la question ne se pose plus justement, il n'y a même plus ni d'incarnation de la question de la, oui, de l'incarnation.
Oui, et ce qui est, ce qu'on découvre si on poursuit ce genre d'interrogation, c'est que l'incarnation, la désincarnation s'incarne à travers l'incarnation. Et l'incarnation est incarnée par la désincarnation. C'est un peu un jeu de mots, non? C'est, comme on disait, c'était juste vendredi, je crois, non? On parlait de la forme et vie des vies, des formes, etc. Ça, c'est des trucs traditionnels, le langage traditionnel. Mais c'est comme cette, ce que j'avais dit, c'est que la vie est toujours dans le particulier et dans le temps, mais c'est éphémère.
It's like no, where, now, here.
Voilà, exactement. Encore une fois, le langage nous permet de dire ça. Oui. Et le, ou ce truc chinois que j'avais dit vendredi soir aussi, c'est que pour les Chinois, ils disent que un poème, c'est une peinture invisible. Et une peinture, c'est un poème visible. Et c'est cette même. Parce que la poésie, effectivement, c'est pas. C'est éphémère. Mais la peinture, concret. Mais ce que ça incarne, la peinture, c'est cette poésie, ce qui est désincarné. C'est vrai. Et la poésie, les meilleurs poèmes, les poèmes qui nous restent, qui nous parlent, c'est quand ils sont totalement, il y a quelque chose de concret qui, sinon c'est un peu disparate. Ce n'est pas incarné, le poème.
Can you, this week you wrote something about le flocon de neige de Raymond Pang. And that's a bit what I'm listening to when with all the where I am and here I am. Want to say something about that?
Oui. C'est vrai que c'était une référence un peu oblique à Raymond Pang, c'est le flocon de neige. Parce que, oui, c'était à propos de ce qui, je crois, c'était à propos de l'inattendu, hein, c'était ça? Oui,
yeah,
oui, l'inattendu, oui. Souvent on vit dans les contraintes de ce qu'on attend, de nos attentes. Et si on s'ouvre à l'inattendu, il n'y a plus d'attente. Et il n'y a juste ce qui est. Et il fait référence à cette histoire de ce personnage qu'on appelle Layman Peng. C'est un personnage zen du 8e siècle qui n'était pas un monastique, qui avait une femme et deux enfants, et qui toute la famille pratiquait, en fait. Et il voyageait de monastère en monastère, pas toujours, parfois il se posait quelque part, je crois qu'ils avaient une maison quelque part, mais je ne sais pas où. Et il est devenu connu et il reste dans les annales, dans les histoires zen, parce que parfois il dit des choses très percutantes. Et il était très respecté par les maîtres qui sont restés comme les grands maîtres de notre lignage et d'autres. Il était respecté comme un de leurs par ces gens-là, bien que comme il n'était pas dans la forme monastique, il ne pouvait pas être reconnu comme un maître. Les choses ont changé. Moi et mes deux camarades, Corinne et Franck, on n'est pas monastiques. Et pour les Japonais, on n'est pas reconnu. Mais pour notre maître et notre lignage, on est absolument reconnu. Bon, les Menpeng n'étaient pas reconnus. Mais les choses qu'il dit parfois étaient extraordinaires ou très intéressantes. Nous parler. Et donc, dans l'histoire des flocons de neige, il était en visite à un monastère et c'était le moment de partir. Et le maître, je crois que c'était Yakusan, a envoyé deux de ses disciples à l'accompagner à la porte, à le portail du monastère. Ce qui est un signe de grand respect s'il envoie quelqu'un pour accompagner le visiteur à partir. Et ils arrivent et il neige. Et Le Menpeng regarde la neige et il dit « Ah, merveilleux flocon de neige, il ne tombe pas dans un autre endroit. » Bon, l'histoire, il y a d'autres trucs qui sont ajoutés à ça, mais c'est ça la phrase que Thomas fait référence et qui est retenue. Les flocons de neige ne tombent pas dans un autre endroit. Chaque flocon de neige, et on sait aussi que chaque flocon de neige est différent que l'autre. Ils sont à l'infini différents, comme nous. Et chaque flocon de neige tombe exactement, précisément, dans un endroit. Et c'est pas le même endroit où tombe un autre flocon de neige. Même si il on a l'impression qu'il tombe exactement dessus, c'est pas exactement dessus, c'est pas le même endroit. C'est pas le même endroit parce que c'est pas le même flocon de neige. Et ça ne peut pas être le même endroit. On peut tout être entassé l'un sur l'autre, mais c'est pas le même endroit. Il y avait beaucoup de neige à l'époque ici, le jardin était blanc. Il y avait ça. Les arbres étaient s'écroulaient sur les poils de la neige. Mais tous ces flocons de neige n'étaient pas dans le même endroit. Chaque flocon était exactement à sa place. Et on voit ça si on n'a pas une idée qu'ils sont tous dans le même endroit. Qu'on n'a pas une idée de où il devrait tomber ou pas tomber. Et dans l'occurrence, dans cette histoire dont il fait référence, Thomas, c'est que j'avais entendu sur la radio qu'il allait neiger à Nice. Et dans ma tête, mais il ne neige pas à Nice. On ne va pas avoir de neige dans le sud de la France. Et bien que je sais très bien que ça arrive parfois, mais rarement. Mais bon. Donc, j'étais confrontée avec mes attentes. Ce qui est attendu et ce qui n'est pas attendu. Et ça m'a fait voir que je suis souvent limitée à ce que j'attends. J'ai une idée très fixe de ce qui est Nice ou Édimbourg. Et à Édimbourg, il neige. Pas de problème. J'en sais rien, franchement. Il neige à Édimbourg ?
Mais cette année, il neige beaucoup.
Ouais, ok. Souvent, je suis limitée par ça, mais surtout à propos de moi-même et à propos du monde et des autres. Et de ce que c'est ma relation à l'autre. Si j'arrive avec une idée préconçue de ce que Thiago va dire, ou dans quel état il est, ou même comment il reçoit ce qui est dit, je ne suis pas du tout présent à la relation. Et la vie n'est autre que relation. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie. Et comme, bon, d'une certaine façon, on peut, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs intellectuels de Jacques Lacan, mais les flocons de neige tombent toujours là. Tombe pas dans un autre endroit. C'est tout. C'est c'est une façon poétique, disons, de dire. On est qui on est, je ne sais pas. Tout est. Parce que dès qu'on commence à dire des mots, ça fixe, mais tout est. Ou depuis le début, rien n'est. Et tout est. Les flocons de neige sont. On est chacun exactement dans nos endroits. Et quelle liberté! C'est là la liberté. On ne peut pas être ailleurs. On est absolument libre là où on est. On n'est pas enchaîné d'être par quoi que ce soit. On est là.
Oui. On peut dire que le flocon dit oui à là où il est et non à toutes les autres places. Aujourd'hui, ça fait
oui.
Des années que je t'entends parler de oui. Et peut-être l'ai-je pas entendu, peut-être l'ai déjà dit, mais j'ai jamais fait le lien entre oui. Si je dis oui pour un espace, pour autre chose, c'est que je dis non au reste.
Ou je dis oui à toutes les autres places aussi, mais je dis oui à ma place. Et donc, je n'ai pas besoin de dire non aux autres places, parce que je dis oui où je suis. C'est comme le truc de Joyce, je suis un homme qui marche dans la rue, je trébuche sur quelque chose, je me penche pour voir ce que c'est exactement ce que je cherchais. Et c'est comme ça qu'il a écrit ses livres. En trébuchant. Et puis, c'est ce que je cherchais. Ma place, là où je trouve, c'est exactement là. C'est comme je disais que moi, je n'ai pas d'architecture parce que c'est ça que je veux. Mais c'est ça que je veux parce que c'est là où je suis. Je n'ai pas besoin de dire non à mon frère Franck qui a un centre énorme, qui a plein de trucs. D'ailleurs, c'est Franck qui m'avait donné les coussins que j'ai. J'ai pas besoin de dire non à la place de Franck pour dire oui à la mienne. Souvent, je croyais ça. Et c'était difficile avec la relation avec mon maître à une époque, parce que j'avais toujours de facilité à lui dire oui. C'était les choses les plus faciles du monde. Oui, je lui disais toujours oui. C'était tellement agréable. À un moment, il fallait que je dise non. Parce qu'il fallait que je prenne ma place. Il fallait que je dise oui à ma place. Et j'avais cru que disant oui à ma place, c'était de dire non à sa place. Mais c'est pas ça. Si je dis vraiment oui à ma place, je dis oui à la place des autres. C'est pas un problème. Donc, peut-être c'est une étape de dire oui, ok, je dis oui à ma place et je dis non aux autres places, parce que j'ai cette tentation de vouloir la place de l'autre, c'est ça? J'ai tendance de vouloir être ailleurs.
Non, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que c'est important aussi de savoir dire non, mais pas dans le sens exclusif.
Oui.
Pour mieux dire oui. Et pour éviter de dire oui à tout, parce que c'est pas possible de dire oui à tout, puisqu'il y a une seule place. Mais ceci dit, quand tu dis dire oui là, t'as pas besoin de dire non à côté, ça revient au même, mais c'est quand même ce que j'ai entendu, et qui va du côté de la discipline.
Oui, peut-être, on peut le voir comme ça, tout à fait. Oui.
Ce que j'entends surtout, c'est que tu sens bien te dire oui avec son cœur, pas avec tes mots.
Oui.
C'est dans un sens, oui est un no, un mot est un mot, nowhere, c'est here, je suis là, c'est une place, c'est comme tu disais avant. Qui suis-je et où suis-je? Mais en fait, c'est le cœur qui sait. Tu disais ça en faisant le pratique. C'est le cœur.
Cette pratique n'est que cœur. C'est vraiment une pratique de s'ouvrir le cœur de plus en plus.